L'invité de notre édition ce soir est Nathanaël Fons. Nathanaël est étudiant en études d'Amérique latine et il est également soldat dans l'unité Nahal. Il vient de passer 3 mois à Gaza et il va nous raconter son expérience. Nathanaël Fons, bonsoir.
Bonsoir Rachel.
Alors on est très très heureuse de vous avoir dans notre studio ce soir. Et je voudrais qu'on commence tout d'abord par parler un petit peu de votre vie avant le 7 octobre, que vous vous présentiez, puisque vous n'étiez plus un soldat, ça fait déjà plusieurs années.
Oui, merci Rachel, merci à vous. À début, je voudrais m'excuser pour ma français, elle n'est pas... C'est très loin d'être parfait, mais je vais essayer de passer mon histoire.
Comment ça se fait que vous parlez français?
C'est grâce à l'amour, c'est grâce à ma fiancée, Léa, et grâce à ça que ma mère elle est espagnole, et ma langue maternelle est espagnole, ça, donc c'est très similaire.
Ah oui, mais quand même, hein, d'apprendre le français comme ça, c'est impressionnant.
Merci beaucoup.
Alors on vous écoute, Nathanaël.
Merci. Donc, je m'appelle Nathanaël Fons, j'ai 27 ans et j'habite à Jérusalem et je suis un étudiant de l'université hébraïque en Jérusalem. J'ai juste fini mon MBA et je travaille à l'université aussi.
Vous avez étudié quoi?
Les relations internationales et des études ibériques et latino-américaines. Mm-hmm. Très intéressant. Et rien, en plus de ça, j'ai un fiancé, comme je t'avais dit, il s'appelle Léa, elle est française. Et je travaille à l'université aussi. Quoi de plus, je te pourrais compter, je ne sais pas.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Où étiez-vous le 7 octobre? Comment est-ce que vous avez appris l'annonce de la guerre? Et comment vous êtes passé de cette vie donc, d'étudiant, de jeune homme qui vit, qui travaille à Jérusalem, qui est fiancé, donc quelqu'un qui a une vie normale, qui n'est plus un soldat, à d'un coup redevenir un soldat?
C'était vraiment, au début, je dirais que c'était très intéressant de poser les choses comme ça, mais... Et en fait, j'étais à Espagne avec ma fiancée. J'étais chez ma famille en Valence. Et je me levais à 7 octobre, c'était samedi matin, parce que j'avoue que mon commandant, mon chef de l'armée, il m'appelait, il m'a demandé, il a crié que où je suis. Je lui ai dit, je suis à Espagne, qu'est-ce qui se passe? Il a accroché le téléphone. Et grâce à ça, j'ai appris que la situation elle a commencé en guerre en Israël, vraiment une chose qu'on ne connaissait pas. Et même si dans les plus graves cauchemars, je t'ai dit vraiment, je n'ai pas pensé que quelque chose comme ça là possible. Donc on a reçu cette nouvelle qu'on était à l'Espagne et vraiment, on avait parlé. On a décidé que moi, je tournerai à Israël pour aller avec mes amis à l'armée, à ma bataillon. Et elle restera là-bas. Et on a fait comme ça. Ça m'a coûté 4 jours pour arriver à Israël parce que, comme vous savez, on était dans une situation vraiment dure.
Il n'y avait aucun beaucoup... vol.
Oui, moi, j'avais un vol avec une compagnie qui était étrangère, pas israélienne. Elle m'a cancellé ma vol et c'était... Il m'a coûté toujours, d'après ça, de voler avec El Al, retour à Israël. Et parce que j'étais pas en Israël avant 2 mois, avant le 7 octobre, c'était plus rare aussi de retourner. J'ai pas vu ma famille pour 2 mois, j'ai pas vu mes amis, j'étais pas en ma maison. Et très vite, j'apprends les salles, les choses de l'armée. Et j'allais avec moi et mes amis qui étaient déjà là-bas depuis 8 octobre.
Alors comment s'est passé ce retour à l'armée? Donc vous arrivez en Israël, vous retournez directement à l'armée. Et comment on se réhabitue à cette vie de soldat?
C'est pas facile, mais je vous dirais que pour la première fois, et pour le premier instant que j'arrivais à mes amis, à l'armée, même si c'était en situation de guerre, on avait peur, même si on ne savait pas qu'est-ce qui se passe, qu'elle passera, il y avait encore du terrorisme dans Israël, les choses étaient vraiment très délicates, c'était les premiers jours de la guerre. Mm-hmm. Mais pour moi, ça peut être un peu drôle, mais c'était le premier moment du relax. J'avoue, mes amis, je savais que je suis où j'ai besoin d'être. Mm-hmm. Un endroit qui est là-bas, je vais être le plus importante que je peux donner à ma nation. Mm-hmm. Donc, les premiers moments étaient très bien, mais après ça, les premiers 2 mois pour moi, j'étais au total 4 mois et sans retourner à la maison. Et la première 2 mois, elle était très difficile de retourner à la discipline de l'armée, mm-hmm. à les situations. Tu pars. Nous, mais je parle de nous, je parle de les réservistes, on n'est pas comme les soldats normaux, on dit qu'on est ici, en Israël. On est notre vie, on est notre rêve, on est notre famille, les études, comme vous avez dit. Et les situations, et moi je pense qu'on est beaucoup de pensements, non, on comprend un peu plus de choses, peut-être on est des. On ne pense pas de la situation politique et la même chose qu'on avait pensé quand on avait 20 ans. Mm-hmm. Et ça aussi, c'est très peu dur, spécialement avec tous les présidents, les révolutions juristiques qu'on avait ici et tout est notre pas très loin histoire mm-hmm. du pays.
Oui, ça, vous faites référence à la tentative de renversement juridique-judiciaire qu'il y a eu de la part du gouvernement de Netanyahou, qui au final a échoué, mais c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. Avant que la guerre éclate, le pays était sans cesse en manifestation contre ce mouvement. C'est vrai que ça a l'air d'être complètement secondaire aujourd'hui quand on regarde le 7 octobre. Mais ce que vous dites, c'est que en fait, quand on a 18 ans et qu'on est soldat, on est un peu comme une page blanche et c'est plus facile d'obéir, de devenir un soldat, en fait.
Exactement, exactement. Si tu me permets, je vais utiliser un mot un peu dur, mais mm-hmm. l'indécrination, qu'on est comme un état, que ce n'est pas toujours une mauvaise chose, mais c'est important. Quand tu es 18 ans, tu es vraiment prêt pour aller à l'armée et peut-être après de très 3-4 années là-bas et de commencer votre vie à l'âge des 22 années, de commencer les études, de connaître d'autres gens, d'avoir l'expérience normale, non, de chaque étudiant qu'on connaît à l'Europe. Mm-hmm. Je pense que ça peut-être change les choses, mm-hmm. mais en même temps, je dirais que pour moi et pour mes amis, c'est peut-être la première fois qu'on allait en réserve. Mais c'était la première guerre et c'était une grande différence. Mmh, mmh.
Et donc, vous entraînez pendant combien de temps avant d'entrer à Gaza?
Toujours. Ah, avant d'entrer à Gaza, mmh. ça c'est. On entraîne toujours comme réserviste et, mmh. et on
oui, c'est-à-dire qu'une fois par an, c'est ça?
Exactement, une fois par an. Et c'est nous, notre bataillon, notre équipe. Et on prend ça très sérieusement. Et grâce à Dieu, je dis ça. Et avant d'entrer à Gaza, mes bataillons étaient là-bas et juste au début, on était le 8 octobre. On n'avait pas beaucoup de temps pour entraîner parce qu'il y avait toujours de missions à faire, des choses à faire. Mm-hmm. On avait comme 5 jours et après chaque mission, mais c'était suffisant parce que je pense qu'on est très entraîné comme en armée. Mm-hmm. Et les choses plus importantes, c'est d'être ensemble et d'être forte dans tout pensement, tout sentiment, ça c'est plus important. Et il n'y a pas aucun entraînement pour ça.
Mmh. Vous voulez dire d'être fort psychologiquement dans ces moments-là.
Exactement.
Et d'être
Exactement.
Fort aussi en tant qu'une équipe qui fonctionne ensemble, parce qu'au final, la guerre, on ne la fait pas seule.
Exactement. Et c'est une équipe qui n'est pas organique. On dit, il y a des gens de 40 années, il y a des gens qui ont juste fini ce service. Il y a des différences énormes entre, mm-hmm. entre l'âge, les différences qu'on connaît comme entre père et fils, mm-hmm. et entre famille. Ça, c'est le pouvoir. Mais pendant ça, on fait la même chose.
Mm-hmm. Ça veut dire
on est chacun sa vie dans la main de l'autre.
Mm-hmm. C'est-à-dire, oui, c'est ça, c'est que vous, même si au sein d'une équipe, c'est des gens d'âge très variés, qui viennent aussi de milieux socio-économiques très très différents, qui ont des vies très différentes, au moment où vous êtes cette équipe dans l'armée, on oublie ces différences-là et on fonctionne comme un seul homme à plusieurs têtes, quoi.
Exactement. C'est toujours les clichés en Israël qui ont dit les réservistes, on est des ultra-orthodoxes, des laïcs, des gens de kibboutz, les gens des séfarades, des ashkenaz, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et pour moi, c'est la lumière de toute cette guerre, c'est de rencontrer avec les gens que normalement je ne vois pas, et maintenant ils sont mes amis.
Et alors, vous êtes ensuite, donc après très peu de temps d'entraînement, rentré à Gaza. Qu'est-ce qui se passe quand on est à Gaza ? Bon, j'imagine que vous ne pouvez pas nous en dire énormément, mais qu'est-ce qu'un soldat, c'est quoi la journée type d'un soldat à Gaza pendant cette guerre ?
Et comme vous avez dit, c'est vraiment ça. On ne parle pas du tout, mais ça varie aussi. Hein. Je vous dis que ça change. Ça dépend les objectifs de cette mission. Moi, j'étais trois fois, mais je peux dire qu'en général, même si défensif ou d'attaque, c'est une mission d'attaque ou défense, et à jour, ça, tu te lèves à 4 heures du matin, après une nuit qui n'était pas vraiment allée dormir, parce qu'il y a toujours des choses à faire pendant les nuits. Tu lèves, tu as fait un café et tu commences avec les missions que chaque est platoon. J'espère que ça dit comme ça. Chaque équipe a des missions et c'est toujours vraiment organisé. Et je pense qu'en top, comme on dit en anglais, c'est d'être ensemble, de faire des choses ensemble. C'est, ça veut dire du lire, d'écouter des radios, de faire de manger, et de faire des sports et changer des idées, je ne sais pas, mais je pense que c'est ça les choses plus importantes. Évidemment qu'on a des choses, je dirais, plus militaires, que c'est d'aller chercher des terroristes, d'aller sécuriser un paramètre ou quelque chose comme ça, mais c'est toujours ça. Ça commence en ta équipe, comme tu es de jour à jour, tu fais des manger ensemble, tu vous prépares. Tu penses en toi, l'importante. Je pense que c'était dernièrement sur toute l'équipe, parce que j'en avais perdu un peu. Désolé.
Donc ça veut dire, au final, ce que vous nous dites, c'est qu'on a cette image de la guerre comme le combat, le chaos. Vous nous dites, mais c'est aussi le quotidien. D'être ensemble, de boire son café, de rentrer d'opération et de passer le temps jusqu'à la prochaine, etc. Mais ma question, ce serait, vous rentrez à Gaza, qui est en grande partie détruite, donc c'est des paysages de destruction qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est des choses qui sont difficiles à voir. On entend des explosions. On sait aussi ce qui s'est passé pendant le 7 octobre. Donc on est après ces images atroces qu'on a dans la tête. Est-ce que vous avez peur ?
Oui, moi, je parlerai pour moi-même. J'avais peur, mais les peurs, ce n'étaient pas les peurs importantes. On dit les peurs à la quantité et raisonnable et normal, parce que si tu n'as pas peur...
C'est pas une peur qui vous paralyse.
Non.
Mais c'est une peur qui vous garde.
Qui en garde. Et je te dirais, pour les choses qu'on avait vues, pour nous, c'était double, parce que mon bataillon, mon platoon, on a vu au primaire, au début, les choses horribles qui avaient passé au 7 octobre, au kibboutzim. Nous, spécialement, on était à Nahal Oz. C'était vraiment...
Une des localités du sud, un des kibboutz qui a été le plus très gravement touché lors du 7 octobre.
Exactement. C'était vraiment un grand horreur pour nous et c'était très dur. Et après ça, vous rentrez à Gaza parce que nous, on avait rentré après 2 mois. Et on était vraiment prêts à faire ça. Et mentalement, en plus de tout ça, parce que encore, on avait les objectifs pour cette guerre, les raisons pour cette guerre. Et je pense que ça nous aidait de ne pas avoir peur. Et à plus de ça, je pense qu'on est très fort comme en armée. Et les terroristes, ils sont là, ils attaquent du souterrain, ils attaquent vraiment, on dirait, sale. Mais ce n'est pas les choses plus, comme on dit, qui donnent des ports. Et Gaza, c'est mauvais. Il n'y a rien à dire. Les guerres, ces choses sales, c'est mauvais.
La guerre, c'est moche.
C'est moche, vraiment. Vous bien dites, c'est moche. Même si tu n'es pas c'est pas, même si c'est, tu comprends que les Hamas sont les ennemis, mais pour moi, je dirais pour nous, on avait compris que pas tous les Gazaciens ils sont des Hamas.
Mm-hmm.
Et, mais en tout cas, tu te trouves dans sa maison, tu trouves fait des choses qui ne sont pas très sympathiques. Mais c'est ça, je pense que c'est ça la guerre, en fond.
Et donc, vous êtes rentré il y a peu, il y a un mois, de retour à la vie civile, en tout cas jusqu'à ce qu'on vous rappelle en réserve. Dans le débat public en ce moment, on parle de plus en plus de la santé mentale des soldats. On comprend que la guerre a un impact sur la psyché des soldats. Et je voulais vous demander comment est-ce que vous faites face psychologiquement à ce que la guerre implique. Et puis surtout, est-ce que vous sentez que l'armée sait gérer cette nouvelle situation et sait aider psychologiquement ses soldats ?
Et oui, je m'adresse à la dernière part de votre question. Je dirais que oui, que l'armée il fait beaucoup de choses. Et moi, je pense que c'est la première fois que l'armée fait des choses comme ça. Et on avait des guerres ici en Israël, mais c'est la première fois que je pense que l'armée il donne des opportunités et réelles et pour la santé mentale de chaque soldat. Moi, par exemple, je te raconterai. Que pour la première fois de ma vie, je suis allé à un psychologue après la guerre. C'est déjà la troisième fois.
Mm-hmm.
Et c'est grâce à l'option que l'armée m'a donné 1500 shekels, et pas juste pour moi, chacun qui a fait la guerre,
mm-hmm.
pour aller aux thérapies et chez le psychologue.
Mm-hmm.
Et je pense que c'est très important. Et à plus de ça, après qu'on avait sorti, et l'armée avait donné comme 2 jours en retraite, en hôtel,
mm-hmm.
2 jours avec des psychologues où on avait passé en traitement du groupe. On a parlé tous les platons, tous les gens qu'on avait ensemble ces 4 mois. Et ça aussi, c'était très, très important pour nous. Ça nous aidait beaucoup.
Mm-hmm. Alors, j'ai une dernière question pour clore cet entretien, Nathan Alphonse. Si vous aviez un message à faire passer à nos auditeurs et auditrices françaises qui écoutent les informations, qui voient les informations, qui entendent parler de cette guerre, mais d'assez loin, vous qui étiez présents sur le terrain, qu'est-ce que vous voulez leur dire à nos auditeurs ?
C'est une grande question, mais je dirais que j'ai un message pour tous, pas juste pour les Français ou les Juifs ou les Arabes, les Palestiniens, les Israéliens. J'ai un message pour tout, pour nous-mêmes, pour après avoir passé cette guerre. Une guerre, c'est pas une chose durable, c'est une chose moche. On ne peut pas avoir notre vie comme ça. Je ne permettrai pas que mon fils il passera la même chose.
Mm-hmm.
Et mon message est de faire tout ce qu'on peut pour éviter d'avoir des guerres, pour solutionner cette conflit, parce que, et je pense que c'est pas une chose facile à dire, mais on a besoin de, maintenant de regarder dans les yeux et de demander les pu et demander à notre avenir, notre futur pour notre enfant. On avait un futur pour ce pays.
Mm-hmm.
Ça, c'est mon message. Et je vous remercie beaucoup, Rachel, pour cette opportunité.
Mais
de
c'est
parler
nous.
Avec vous.
C'est nous, c'est nous qui vous remercions. Et puis, on est avec vous dans ce souhait d'un meilleur futur et d'une paix durable. Merci, Nathan Alphonse.
Merci,
Rachel. Au revoir.